Ruquier.
Le grand oral des grandes gueules.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure sera jugé le gifleur d'Emmanuel Macron en comparution immédiate. Le président qui a semblé vouloir relativiser le geste. Alors, c'est grave ou pas ce qui s'est passé dans la Drôme ?
Bien sûr que c'est grave. Il ne faut pas banaliser. C'est d'ailleurs ce que nous a dit le président de la République en Conseil des ministres hier. C'est toujours grave d'être violent. La violence est toujours grave. Elle l'est aussi quand elle touche un dépositaire de l'autorité publique, que ce soit d'ailleurs un maire d'une petite commune ou le président de la République. Par contre, il ne faut pas laisser penser que ça résume ce que sont les Français. Ce n'est pas monsieur tout le monde, ce monsieur qui a voulu porter un coup au président de la République. Il avait visiblement un parcours des inspirations assez singulière. Et donc c'est ça le sens, c'est qu'il faut peut-être aussi relativiser. Ce n'est pas l'affaire du siècle. Mais c'est grave et il faut le dire.
Est-ce qu'il faut aussi réfléchir à la sécurité du président ? Selon BFM TV, son service de sécurité l'avait informé qu'il fallait éviter d'aller dans ce bain de foule-là parce que ça n'avait pas été sécurisé. Ce n'était pas forcément dangereux, mais la zone n'avait pas été sécurisée. Et finalement, le président n'a pas écouté son service d'ordre et même il s'est précipité un peu au pas de course vers cette barrière, ce qui a d'ailleurs un peu surpris le service de sécurité. Est-ce que là, Emmanuel Macron doit maintenant peut-être écouter un peu plus son service de sécurité ?
Est-ce qu'il a été imprudent ?
Non, d'abord, moi, j'ai été interrogé sur cette information hier dans mon compte-rendu du Conseil des ministres et je vous redis ce que j'ai dit hier. Il n'y avait pas eu d'alerte particulière en disant il y a des personnes dangereuses derrière cette barrière, il ne faut pas y aller.
Mais ça n'a pas été sécurisé dans le sens.
Le bon timing, c'est le président.
Je vous le dis.
Il a été imprudent.
Le rôle du service de sécurité du président de la République, c'est évidemment toujours d'être extrêmement vigilant et ils le sont. Il y a eu cet incident. Évidemment qu'il est vigilant aussi. Mais vous savez. Il y a un souhait qui est d'aller au contact des Français sans fil, d'échanger vraiment avec des Français à l'occasion de ces déplacements. On a connu des responsables politiques, parfois des présidents de la République, qui, quand ils organisaient ce type de déplacement, scénarisaient un peu les choses, faisaient venir des quarts de militants de leur parti politique qui mettaient derrière des barrières en faisant croire que c'était des Français, monsieur et madame tout le monde. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Voilà. Donc, le président, il va au contact. Les Français d'une commune dans laquelle passe le président de la République, ils peuvent aller parler au président de la République. Ça peut d'ailleurs entraîner des discussions franches, parfois tendues. Et ça, évidemment, c'est normal. C'est aussi ce que va chercher le président. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on se retrouve avec un acte comme celui-là.
Qui a fait le tour du monde. Hein. L'image du président giflé partout, dans tous les médias, ce n'est pas une image qu'on a envie de voir.
Bien sûr, non, c'est certain. Et encore une fois, on ne peut pas laisser penser que c'est banal que d'avoir des images de violence.
Est-ce que le chef de l'État va un peu modifier sa manière de faire au fil des 10 prochaines étapes là, qui doivent avoir lieu en France ou pas ?
Il va évidemment poursuivre cette série de déplacements, ce Tour de France, pour aller encore une fois à la rencontre des Français, mais aussi des rencontres plus spécifiques avec des salariés, avec des chefs d'entreprise, avec des syndicalistes, avec des associations, avec des élus locaux, avec des sages-femmes, avec des professionnels de la petite enfance. Il veut rencontrer des Français extrêmement divers.
Mais d'année en année, vous voyez bien qu'il y a une montée de la violence quand même dans le pays. Il y a une gradation.
À l'égard des élus notamment.
À l'égard de tout ce qui incarne l'autorité, les enseignants, les pompiers, les policiers, les journalistes, les médecins. Et là, c'est le premier des Français. Dans son incarnation qui a été visée. Donc, est-ce qu'il ne convient pas quand même de revoir tout ça ? Qu'aux États-Unis, le président, il est placé constitutionnellement sous la protection des services de sécurité qui disent « Voilà où on va, voilà ce que vous devez faire. » Pas en France.
Non, pas en France. Ça n'a jamais fonctionné comme aux États-Unis avec le Secret Service. Mais moi, je pense que c'est important de parler des sujets pour ceux qu'ils sont. Oui, il y a de la violence dans la société. De la violence qui frappe des femmes par leur conjoint, il y a de la violence qui fait que vous avez des personnes qui sont agressées quotidiennement dans leur quartier, il y a de la violence qui est liée à du trafic de drogue, etc. Il y a cet acte qui est encore une fois celui d'un homme isolé, visiblement un peu détraqué, qui s'en est pris au président de la République. Et donc, nous, on s'attaque au sujet de la violence. Mais moi, je ne veux pas donner le sentiment que ce qui s'est passé à Valence incarne ce qu'est aujourd'hui la société française.
Alors, d'accord. Alice Cordier.
Oui, moi j'avais une question. Je me demandais, parce que vous expliquez en effet certes que c'était un acte isolé, mais énormément de Français se sont réjouis presque devant cet acte-là. Il faut aussi le comprendre. Est-ce que Emmanuel Macron est quand même... est-ce qu'il réalise aussi que les Gilets jaunes, c'était hier, qu'il y a beaucoup de Français qui se sont sentis très souvent humiliés par lui, par certaines maladresses qu'il a pu avoir ? Est-ce qu'il a conscience aussi qu'aller les voir comme ça, faire comme si de rien n'était... c'était pas aussi finalement le chien finit par mordre en fait. Est-ce qu'il a conscience de cela ?
Alors d'abord moi je crois pas que beaucoup de Français se soient réjouis.
Alors, peut-être sur les réseaux, c'était quand même, il y a eu énormément de messages.
Vous savez, si les réseaux sociaux étaient représentatifs de la société française, permettez-moi d'en douter. En tout cas, j'espère pas et je ne le crois sincèrement pas. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est une union républicaine de toutes les formations politiques pour dénoncer cet acte. Et ça, je pense que c'est très important de le dire aussi, parce que les formations politiques, les partis politiques, ils ont une responsabilité vis-à-vis de la population. Et vous savez, moi, je suis rentré au gouvernement, j'étais secrétaire d'État à la jeunesse juste avant le mouvement des Gilets jaunes. J'ai vu ce que c'était à l'époque. Le niveau de tension qu'il y avait dans le pays, de tension politique, y compris quand les membres du gouvernement se déplaçaient. Ce n'est pas ce que je ressens aujourd'hui. D'ailleurs, on parlait d'échanges sans filtre, du fait que le président, on ne sélectionne pas les personnes qui vont échanger avec le président à l'occasion de ses déplacements. Si vous avez regardé les images de ces déplacements, que ce soit dans le Lot ou dans la Drôme, dans 99,99999% des cas, c'est des échanges qui se passent bien, qui sont francs. Parfois, il se fait engueuler, entre guillemets, mais ça se passe bien et correctement. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi. On a toujours tendance à regarder un acte isolé, à vouloir en faire une généralité et tout résumer à ça. Moi, c'est pas ce que je ressens des déplacements.
Et justement, ça intervient en pleine campagne sur les élections régionales, ce qui se produit. Ces élections régionales, c'est chronique d'une défaite annoncée pour La République En Marche,
Gabriel Attal. On est un nouveau parti politique qui date de 2016. On s'est frotté pour la première fois à un suffrage municipal, maintenant en suffrage régional, ça met forcément du temps de s'implanter au niveau local. Voilà. Quoi qu'il arrive, après ces élections régionales, on aura plus d'élus régionaux La République En Marche dans les régions qu'on en avait avant. On en a très peu aujourd'hui. Il y en a des sortants qui nous ont rejoints. Mais c'est ça qui est important pour moi. C'est important parce qu'on est à un tournant dans notre pays. Il y a eu la pire crise sanitaire depuis un siècle. On espère qu'on en est sorti durablement. Il y a une crise économique, il faut reconstruire le pays, relancer l'économie. On a besoin des régions pour ça. Et nous, avec les listes de La République En Marche qui sont candidates dans chacune des régions, on porte avant tout cette priorité-là, faire de la relance une priorité au niveau régional. Chaque voix qui va à une liste de La République En Marche, c'est une voix pour la relance économique dans la région. Et quel que soit le résultat à la fin, enfin, je ne vais pas dire quel que soit le résultat, mais en tout cas, les élus de La République En Marche qui siégeront dans la majorité ou dans l'opposition dans les régions, ça sera des vigies de la relance qui garantiront aux électeurs de chaque région que ça sera une réalité pour eux dans leur quotidien et pour leurs emplois.
Partout où le Rassemblement National peut l'emporter, La République En Marche se retirera au profit de celui qui est mieux placé ?
D'abord, on voit aujourd'hui que La République En Marche est sans doute le parti politique qui combat le plus le Rassemblement National. On a aujourd'hui une gauche face au Rassemblement National, on a une gauche mutique et une droite hystérique. Nous, on les combat en permanence, on m'a d'ailleurs reproché parfois de trop le faire, et donc on sera toujours dans ce combat-là. Alors, maintenant, donc, je ne peux pas vous dire...
Ce n'est pas un objectif
Parce que le Rassemblement National, aujourd'hui, est un parti admis, qui fait partie du spectre électoral. Mais est-ce que ce n'est pas une perte de temps vaine, David, quand vous dites que nous sommes, puisqu'en plus je suis un sympathisant de La République En Marche, c'est un secret pour personne, est-ce que ce n'est pas une perte de temps que de se satisfaire de consacrer ce temps à combattre le Front National aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des priorités plus importantes?
Vous pouvez quand même répondre à ma question. Est-ce que vous allez vous retirer dans les Hauts-de-France, par exemple, si Xavier Bertrand est menacé d'être battu par Sébastien Chenu ?
Je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire au deuxième tour avant que le premier tour ait lieu.
Non.
Alors, j'entends qu'il faut faire des hypothèses, etc. Moi, ce que je peux vous dire, c'est d'une manière générale, on cherchera au deuxième tour à empêcher le Rassemblement National d'être élu à la tête d'une région.
D'accord.
Mais
jusqu'à retirer la liste.
Attendons le premier tour. Après, enfin, la question du comment, elle se posera. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Vous avez des listes de gauche qui se sont retirées, qui ont dit le Front Républicain, c'est de s'effacer, entre guillemets, et on retire notre liste. Ouais. Ça a permis, à l'époque, d'empêcher le Rassemblement National de gagner ces régions. Est-ce que ça a permis durablement de régler ce sujet? Non. Bah non, on se retrouve dans la même situation six ans après.
C'est ma question.
Dans les sondages, Xavier Bertrand et Sébastien Chenu au deuxième tour, je le voyais, ils sont à égalité. Donc ça n'a pas réglé durablement
cette question.
C'est un peu
le sens de ma question.
Donc la réflexion qu'il faudra avoir, c'est comment est-ce que on concilie cet objectif d'empêcher le Rassemblement National de prendre une région et en même temps de permettre à différentes tendances d'être présente et représentée dans un conseil régional.
Mais justement, est-ce que c'est pas votre politique qui a été mise en place, parce que au début du quinquennat de Macron, qui fait justement que aujourd'hui le RN est aux portes et peut gagner des régions et plus fort encore? Est-ce que c'est pas justement cette politique-là? Parce que partout où la politique libérale a été appliquée, partout les extrêmes, notamment l'extrême droite, a monté. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est là on voit qu'il y a une volonté de changer l'image d'Emmanuel Macron, parce que finalement, là, il aime la province, il fait le tour de la province, il parle d'industrialisation avant de parler de Startup Nation. Il y a eu l'hôpital, maintenant les services publics qui sont importants. À l'époque, c'était 120 000 postes de fonctionnaires qu'ils voulaient retirer. Et l'hôpital, il avait dit quelques mois avant la pandémie à une infirmière qu'il n'y avait pas d'argent magique pour l'hôpital. Donc il y a une volonté de changement, moi, j'ai l'impression, d'image pour la campagne présidentielle. Et qu'après, en 2022, les réformes qui n'ont pas été faites, notamment la réforme des retraites et le tour de vis budgétaire, va être mis en place à partir de 2022.
Ça, tu n'en sais rien.
Alors, sur le premier point, vous dites si Rassemblement National est haut, c'est de votre faute. Si ma mémoire est bonne, Emmanuel Macron était au deuxième tour en 2017 face à Marine Le Pen. On ne peut pas dire qu'à l'époque, c'était de sa faute qu'elle soit au deuxième tour. Il n'était pas encore président de la République.
Oui, il l'a pas fait.
Il l'a empêché de gagner. Ouais. Il est celui qui a été élu président de la République face au Rassemblement National, qui était déjà très haut.
Un gouvernement qui l'a fait monter.
Qui était déjà aussi, très haut, puisqu'elle était au second tour de l'élection présidentielle et qu'elle a fait, je crois, 35% des voix. Donc on ne peut pas dire que c'est un problème qui naît aujourd'hui. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen, il a été au deuxième tour en 2002.
Vous n'avez pas réglé ce problème.
Mais si on pouvait le régler en 4 ans.
Votre politique a fait baisser cette colère qui pousse certains à voter. Pas que la colère, la conviction parfois qui pousse certains à voter RN.
Il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, il y a encore des inquiétudes, il y a encore de la colère dans notre pays, évidemment. Et on fait tout pour y répondre.
Vous confirmez qu'il y a eu une réunion avec Jean Castex, Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Intérieur, sur le sujet de l'immigration?
Oui, comme il y a régulièrement des réunions sur tous les sujets.
Le constat a été fait que les Français supportaient de moins en moins bien l'immigration?
Il y a une réunion sur l'immigration, comme il y en a très régulièrement. Parce que depuis 2017, notre ligne, elle est claire. Ceux qui ont vocation à pouvoir rester en France, être accueillis en France, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de l'asile, ils doivent pouvoir être accueillis, ils doivent pouvoir être intégrés avec un emploi, un logement. Mais ceux qui n'ont pas vocation à rester en France doivent être éloignés, doivent être reconduits à la frontière.
Vous savez très bien que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas aussi simple. On en parlait justement tout à l'heure, que les protocoles d'expulsion sont très compliqués et qu'on se heurte à un certain nombre d'écueils insoluble. Et c'est pas votre gouvernement, c'est quelque chose qui existe.
C'est pour ça qu'on a voté une loi en 2018, j'étais parlementaire à l'époque, asile immigration, qui permet de simplifier les procédures, de réduire les délais. Elle a eu de premiers effets en 2019, puisqu'il y a eu une augmentation des éloignements prononcés de 20%. Ça a augmenté de 20% sur un an. 2020, il y a la pandémie, tout a été bousculé, on peut difficilement en tirer des conclusions. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui sur les reconduites à la frontière? C'est le fait que pour expulser quelqu'un, vous devez avoir ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire de son pays d'origine qui doit vous être fourni par l'ambassade. Et qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui, des pays qui traînent à donner ces laissez-passer consulaires pour qu'on puisse expulser les personnes, voire qui refusent de les donner. Le Premier ministre était en Tunisie la semaine dernière, c'est un sujet qu'il a abordé avec les autorités tunisiennes. Et donc cette réunion, elle avait vocation notamment à faire le point sur ce sujet. Comment on fait pour que les pays d'origine des personnes qu'on souhaite expulser de France acceptent de reprendre, entre guillemets, leurs ressortissants? Il y a notamment la question des visas qui peut rentrer en jeu, et donc c'est ça l'objet du travail.
Parce que la France a des moins bons chiffres que la moyenne européenne sur ce sujet-là, pourquoi?
Alors, en tout cas, ce que je vous dis vraiment, c'est que suite à la loi de 2018 qui a été votée, il y a eu des résultats.
Donc
maintenant,
il y a un tour de vis qui va être décidé par Emmanuel Macron.
En tout cas, on prendra les mesures nécessaires et les décisions nécessaires pour être plus efficace, comme on l'a été déjà en 2019.
Le sujet qui sort opportunément.
Je ne sais pas comment l'Algérie acceptera, par exemple, d'accueillir quelqu'un qui est expulsé au motif d'une préparation d'attentat ou d'un acte délinquant quelconque. Je ne vois pas comment vous serez en mesure de changer cet état de fait qui est un écueil depuis très longtemps.
Ça fait des décennies que ça dure, c'est sûr, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire qu'on n'arrivera pas à le changer et qu'on fait rien. Il y a notamment un travail diplomatique. Je vous disais que le Premier ministre s'était rendu dans un certain nombre de pays du Maghreb, notamment pour ça. Et donc il y a des moyens, notamment via les visas, pour certains pays peut-être via l'aide au développement. Moi je pense qu'il faut regarder tout ça et c'est ce qui est en train d'être regardé.
C'est pas de l'électoralisme ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de mettre l'immigration au devant des préoccupations alors qu'on a les élections régionales et la présidentielle qui approchent?
Non, enfin, je crois pas. Je crois que c'est une préoccupation et c'est un enjeu pour les Français. Après, moi, je caricature pas les choses. Je pense pas que les Français soient massivement anti-immigration. Je pense juste que les Français, ils se disent, quand on a des règles, il faut qu'elles soient appliquées. Oui, c'est pas possible d'avoir des personnes dont on dit qu'elles n'ont pas vocation à rester en France, mais qui restent en France pendant des années, qui parfois s'y installent, trouvent un emploi, fondent une famille, et c'est encore plus dur derrière de leur dire qu'il faut qu'elles partent. Donc il faut être plus rapide.
Après, 63% des Français préfèrent une immigration choisie que subie, donc c'est quand même une priorité pour eux. Ouais. Et beaucoup sont un peu dans la sélection. Alors c'est compliqué aussi. Donc on va choisir maintenant parce que les Français le demandent ou pas?
Vous savez, aujourd'hui, il y a déjà un moyen de choisir. C'est ceux qui ont vocation à être accueillis parce qu'ils sont persécutés dans leur pays. parce qu'il fuit la guerre.
C'est une minorité aussi dans l'immigration.
Parce qu'il fuit les persécutions. Oui, mais en tout cas, moi, je pense que les Français, ils peuvent se retrouver autour de cet enjeu-là.
C'est une minorité,
Il y a 20 000 sur les 120 000 demandeurs d'asile par an, 20 000 seulement obtiennent finalement le statut de réfugié. Donc on voit bien que la procédure est détournée, puisque majoritairement, les autres ne sont pas des demandeurs d'asile réellement.
Et c'est pour ça que dans la loi, fameuse loi asile-immigration, on réduit les délais. Parce que quand vous avez quelqu'un qui arrive en France, qui fait une demande d'asile, que cette demande, elle met 12, 18, 24 mois à être examinée. La personne, en attendant, on ne peut pas lui en vouloir, entre guillemets, elle s'installe, elle trouve un emploi, elle fonde une famille. Donc, il faut être plus rapide, plus efficace. Et vraiment, on s'en est donné les moyens avec la loi en 2018. Et maintenant, ce qu'on regarde, c'est cette question diplomatique des laissez-passer consulaires.
Gabriel Attal, comment vous expliquez que Macron fasse une campagne, plus ou moins une campagne complètement différente de celle qu'il a fait en 2017. En 2017, justement, il n'avait pas abordé, ou très peu, la question de l'immigration, de la sécurité. C'était vraiment le modèle économique, et ce qui était appréciable, comparé à, par exemple, des Sarkozy, qui avait quasiment le même, finalement, modèle économique défendu par Macron, mais qui, lui, mettait des questions d'immigration et de division, moi, je trouvais, des Français au centre de sa campagne. Ce que n'avait pas fait Emmanuel Macron. Ce que n'avait pas du tout fait Emmanuel Macron. Et que là, il va sur d'autres thèmes. On a l'impression qu'il n'est pas très fier finalement de son bilan, alors que si ça avait bien fonctionné, si tout allait bien, il recommencerait sur la même chose. On va continuer, on va aller plus loin, un petit peu comme des Mitterrand l'aurait pu peut-être un peu le faire, même s'il avait beaucoup changé sur certains points. Mais là, il va sur des thèmes diamétralement opposés, la sécurité, l'immigration, l'industrie.
Alors, Gabriel Attal.
Vous voyez, c'est un peu spécial, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
S'il y a un point sur lequel je vous rejoins, c'est que le débat de l'élection présidentielle de 2017 s'est très peu fait sur ces questions. Oui. Moi, je me souviens, en 2016, on nous disait, vous verrez, dans un an, la question de la sécurité, des sujets régaliens, va être au cœur de la campagne présidentielle. Le fait est que ça ne l'a pas été. Toute la présidentielle, le débat, il s'est fait sur les questions économiques, sociales, sur l'Europe, beaucoup, tant mieux, et sur la question du renouvellement des pratiques politiques après l'affaire Fillon, etc. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on en a moins parlé dans la campagne présidentielle, aussi parce que le débat nous a moins conduit à nous exprimer sur ces questions-là. Mais je veux dire, dans le programme, les mesures sur la sécurité comportent la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes, c'était dans le programme. L'investissement financier pour la sécurité, c'était dans le programme. Moi, je me souviens, en 2017, une des premières lois que j'ai votées en tant que député, elle s'appelait Sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme. Pour renforcer les moyens de nos forces de sécurité, pour fermer les mosquées où on prêche la haine, tout était là. C'est pas une nouvelle priorité. C'était dans le programme. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est moins positionné, exprimé sur ce sujet-là pendant la campagne aussi, parce que c'était pas au cœur des débats. Mais là-dessus, il n'y a pas de nouveauté dans notre action.
En fait, c'est Macron, moi, je pense, qui a réussi à ne pas l'imposer au cœur des débats à l'époque, parce que c'était dans d'autres parties au cœur des débats, cette question. On sortait des attentats, etc.
Ouais,
et même lui, là-dessus, je trouvais
Donc 2022 va être sur la sécurité et l'immigration.
Je disais à l'instant que ceux qui disaient un an avant 2017, quels seront les sujets de la présidentielle, se sont trompés. Donc je ne vais pas, moi, vous faire des prévisions. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'on est aujourd'hui encore quand même dans une crise sanitaire. On espère qu'on en sort durablement. Il y a des enjeux économiques qui sont majeurs. Parce que là, si, comme on l'espère, cet été, le sanitaire s'éloigne, tous les pays dans le monde vont se lancer dans la bataille de la relance économique. Ils vont tous vouloir capter les nouveaux talents, les nouveaux investissements, être ceux qui rebondissent le plus vite et le plus fort. C'est évidemment que la France...
En France, de rebondir vite et fort. La France, avec son modèle social qui est utile en temps de crise, devient un peu plombant lorsqu'il faut se relancer. On l'a vu après la crise de 2008, on a mis plus de temps que les autres à faire baisser le chômage. Ça a été d'ailleurs le problème de François Hollande. Quelles sont les garanties qu'on arrive justement à rebondir aussi vite que les autres cette fois-ci, qu'on ne soit pas à la traîne?
D'abord, pour moi, il y a un signal qui nous permet d'être optimiste. C'est ce qu'on voit et ce qu'on constate. L'été dernier, au troisième trimestre, après la première vague, la France est le pays d'Europe qui a rebondi le plus fort, 18,2% de croissance. Parce que les Français, ils ont envie de travailler, ils ont envie de consommer, ils ont envie de relancer l'économie. Qu'est-ce qu'on voit depuis là, entre guillemets, déconfinement, en tout cas la levée des restrictions? La consommation repart très fort. Les gens, ils ont envie de travailler.
Donc, la croissance,
ça permet aussi d'être optimiste. Et ensuite, contrairement à la crise de 2008, il y a eu le quoi qu'il en coûte pendant la crise qui a permis de protéger, de préserver les emplois et donc les compétences aussi des Français. Et donc moi, je vous le dis, je suis confiant pour qu'on puisse rebondir très fort. Oui, il faut être vigilant, mais optimiste.
Fort.
Bien sûr, on a un plan de relance qui se déploie, qui est bien calibré, qui sera peut-être adapté d'ailleurs, renforcé, puisque maintenant on a eu la deuxième et la troisième vague. Mais je suis optimiste, et en tout cas, ce qu'on observe aujourd'hui, dans l'état d'esprit des acteurs économiques, dans le fait que 50 000 emplois ont été créés depuis le début de l'année, dans le fait que la France, dans les grands pays européens, est le pays qui a le moins perdu de son PIB depuis le début de la crise... Tout ça permet quand même d'être optimiste.
Merci Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, de passer par les GIG.